Voici le journal de Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Avec à la une ce matin les fidèles qui retournent à la messe aujourd'hui après la déflagration du rapport sur les abus sexuels dans l'église. Après la sidération, quelques questions en suspens. On y revient après les autres titres, Christelle.
Un drame familial à Nancy. Un adolescent de 13 ans a tué son père, semble-t-il, pour protéger sa mère. Il est en prison. L'horizon d'Édouard Philippe qui s'élargit. Il a lancé son parti hier au Havre. Les Républicains y voient surtout du braconnage sur leur terre. Y a-t-il eu un effet Pandora Papers? Le Premier ministre tchèque, épinglé pour évasion fiscale, vient d'échouer aux élections législatives. Espagne-France en finale de la Ligue des Nations de football. Après ce qu'ont montré ces deux équipes en demi-finale, ça promet du beau jeu. On y reviendra dans le journal des sports de Maxime Fayolle. Et puis mycologue, un métier de saison en ce moment. Si vous comptez partir à la cueillette des champignons aujourd'hui et que vous n'y connaissez rien, essayez quand même de vous faire accompagner.
Et puis si vous ne connaissez rien en économie, écoutez notre invité à 8h20. Il est spécialiste. Avec lui, on va s'intéresser au plan d'investissement 2030 qu'Emmanuel Macron présentera mardi.
France Inter. C'est le jour du Seigneur, les fidèles retournent à la messe ce matin, mais pour beaucoup de catholiques avec un goût amer. Le rapport de la commission Sauvé cette semaine a pointé l'impensable, 330 000 personnes victimes d'abus sexuels depuis les années 50 dans notre pays. Un drame systémique couvert par la hiérarchie, il sera forcément au cœur des homélies des prêtres. À Strasbourg, par exemple, il y aura un message particulier à destination des paroissiens. Rémi Brancato.
Dans leur prière ce matin, les fidèles de l'église Saint-Louis de la Robertsau auront en tête le rapport de la commission Sauvé.
C'est d'abord prier pour les victimes.
Anne et Jean, son mari, se disent meurtris par l'ampleur des abus sexuels dans l'église. Ils attendent de leur prêtre qu'il trouve les mots.
On imagine qu'il va partager sa profonde tristesse et son accablement.
On aura besoin de se parler entre paroissiens parce qu'au final, l'église, il y a une institution, mais l'église, c'est également nous, tous les catholiques qui sont membres. Donc on a tous une part dans le changement. On doit tous travailler à être plus vigilants.
En exigeant aussi, là, que ça ne se reproduise plus.
Pour le couple qui a 4 enfants, l'église doit agir, aider les victimes. Le père Franck Guichard va écouter ses paroissiens après la messe.
Il y aura sans doute une ambiance particulière, un certain abattement, beaucoup de questions qui vont se poser.
Dans son homélie, il a prévu de dire sa colère contre ceux qu'il nomme les salopards, les auteurs d'abus sexuels.
Pour moi, ça a été une source de honte terrible. C'est mon être de prêtre qui est touché à travers ce que d'autres ont fait. C'est horrible, quoi. Enfin, c'est dégueulasse. On ne peut pas dire les choses autrement. Et après, il y aura des questions. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir et qui vont avoir aussi besoin de parler.
Le prêtre s'attend même à ce que de nouvelles victimes se manifestent dans le diocèse de Strasbourg. Un accord existe déjà avec la justice pour signaler systématiquement les faits.
Quant à l'indemnisation des victimes, une instance nationale sera chargée d'instruire des dossiers personnalisés d'ici au premier trimestre 2022. Mais qui va payer? Le Vatican refuse et la commission Sauvé n'envisage pas une seconde de faire appel aux deniers du culte. Un drame à Nancy, un adolescent de 13 ans a été mis en examen et écroué pour avoir tué son père. Il est soupçonné de lui avoir tiré une balle dans la tête jeudi vers 3h du matin. Après quelques heures de fuite, il s'est finalement rendu à la police. Un drame survenu, visiblement, après une violente dispute conjugale, Léo Limon de France Bleu Sud-Lorraine.
Ce père de famille de 33 ans aurait beaucoup bu ce soir-là. Il se serait montré agressif, il aurait même frappé sa femme, selon elle. C'est à ce moment que leur fils de 13 ans, l'aîné, est allé chercher un pistolet caché dans la chambre de ses parents, avant d'entrer dans la cuisine et de tirer une balle dans la tête de son père, qui décédera quelques heures plus tard à l'hôpital. Le fils de 13 ans et un de ses petits frères se sont alors enfuis, plusieurs heures d'errance dans Nancy où ils ont caché l'arme dans un buisson avant de se rendre à la police. La mère a reconnu en garde à vue que son fils était l'auteur du coup de feu, version confirmée par sa fille de 7 ans qui a assisté elle aussi au drame. La fillette et les 3 autres enfants de la famille ont été provisoirement placés, l'aîné, lui, se trouve en prison.
La mère de Canteleu en Seine-Maritime a finalement été remise en liberté sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle. Mélanie Boulanger avait été placée en garde à vue dans une grosse affaire de trafic de stupéfiants qui touchait notamment sa ville. 19 personnes ont été arrêtées près de Rouen et en Seine-Saint-Denis après 2 ans d'enquête.
15 mois après son départ de Matignon, Édouard Philippe s'ouvre donc à de nouveaux horizons.
Oui, Horizon avec un S, c'est le nom du parti qu'il a lancé hier parce qu'il faut selon lui voir loin. Il affirme vouloir élargir à droite le socle de soutien à Emmanuel Macron. C'est une aventure collective, dit-il, soulignant qu'il pourrait y avoir une double appartenance à son parti et à une autre formation. C'était la stratégie qu'avait menée Emmanuel Macron déjà il y a 5 ans. Daniel Fasquelle, trésorier du parti Les Républicains, estime lui qu'Édouard Philippe continue son travail de déstabilisation.
Édouard Philippe a fait tout le mal qu'il pouvait faire quand il a quitté le navire pour rejoindre Emmanuel Macron pour un poste de Premier ministre. Il a abandonné sur le champ de bataille ses camarades. Il y a une centaine de députés qui n'ont pas été réélus parce que il a rejoint Emmanuel Macron. Il a accepté d'être son Premier ministre. Je crois que tout le mal qu'il pouvait faire, il l'a déjà fait. Alors on voit bien la manœuvre. Il nous a trahis il y a 5 ans pour un poste de Premier ministre. Là, il essaye de créer un parti de droite pour nous déstabiliser, pour avoir le soutien d'Emmanuel Macron en 2027. Moi, je trouve que c'est une drôle façon de faire de la politique que de vouloir sacrifier ou vendre ses camarades ou essayer de leur nuire, en tout cas nuire à ses anciens camarades pour avoir le soutien du pouvoir en place.
Daniel Fasquelle des Républicains chez nos confrères de France Info. Les Pandora Papers, ces révélations sur les gigantesques évasions et autres fraudes fiscales dans le monde commencent peut-être à porter leurs effets. Ainsi, en République tchèque, le milliardaire Premier ministre sortant, Andrej Babiš, qui venait d'être mis en cause, a échoué aux élections législatives. Également critiqué par la Commission européenne pour des conflits d'intérêts, il s'est fait devancer par une coalition de partis de l'opposition, mais il bénéficie encore du soutien du chef de l'État. Correspondance à Prague, signée Alexis Rosenzweig.
C'est un revers électoral inattendu pour Andrej Babiš, que les sondages annonçaient gagnant, mais qui perd sur le fil face à une coalition de partis bien décidés à renvoyer le milliardaire à ses affaires. Visé par les Pandora Papers la semaine dernière, à cause de montages financiers opaques pour acheter des propriétés de luxe sur la Côte d'Azur, le chef du gouvernement sortant dénonce un complot. Et ne s'avoue pas encore tout à fait vaincu, il peut en effet compter sur le soutien du président tchèque, Miloš Zeman, qui malgré sa santé fragile, serait en mesure de laisser le Premier ministre populiste au pouvoir pendant au moins encore quelques temps. Les formations de gauche, qui avaient jusqu'ici pactisé avec Andrej Babiš, subissent un échec encore plus cinglant, notamment le Parti social-démocrate et également le Parti communiste, qui pour la première fois depuis près d'un siècle ne comptera plus un seul député au Parlement. Prague, Alexis Rosenzweig, France Inter.
Une affaire de corruption coûte aussi son poste de chancelier à Sébastien Kurz en Autriche. Les conservateurs sont soupçonnés d'avoir acheté à partir de 2016 des encarts publicitaires dans un tabloïd en échange d'une couverture et de sondages favorables à ce dernier. Kurz se met en retrait et propose que le ministre des Affaires étrangères dont il est très proche lui succède. C'est donc surtout une démission de façade. Les bureaux de vote ont ouvert il y a 2 heures en Irak. On vote pour les élections législatives anticipées. Elles avaient été avancées à la suite des contestations violemment réprimées en 2019. Un scrutin sous haute sécurité dans un pays où le groupe État islamique reste très actif. Mais vu la déliquescence de l'État irakien, les experts s'attendent surtout à une abstention record.
Au moment où la France se redéploie au Mali et qu'elle retire ses troupes du nord du pays, vous nous suggérez, Christelle, un documentaire ce soir sur France 5.
Oui, le prix du sang, 20 ans de guerre française. Et sa force à ce documentaire, Franck Cognard, c'est de montrer les doutes éprouvés par ceux qui ont décidé d'intervenir en Afghanistan ou au Mali, les contradictions entre volonté politique et stratégie militaire, au prix parfois de la mort de certains soldats.
Ce n'est pas un documentaire sur la guerre, il y a peu d'images de combat en immersion.
Derrière chaque mort au combat.
Non, ce qui sous-tend le prix du sang, c'est la question, était-il juste, était-il nécessaire que de jeunes Français soient tués loin de chez eux? Question que se pose après chaque hommage de soldats tués en Afghanistan, Hervé Morin, ministre de la Défense de 2007 à 2010.
C'est des moments moins difficiles, moi je sortais de là à chaque fois qu'il y a eu. Bon, ben voilà, je faisais le boulot bien sûr, mais au bout du compte, oui, la question de notre engagement en Afghanistan est une question que moi je me suis posé plusieurs fois.
Ce que montre le prix du sang, c'est cette émotion immédiate dont s'emparent les politiques à chaque mort au combat, quand les militaires, eux, aimeraient que l'œil reste fixé vers plus loin, vers la paix que la guerre est censée ramener. Bernard Barrera, général, a dirigé les forces terrestres au Mali en 2013.
Mais quand on veut gagner une guerre et quand on veut une victoire, il faut savoir prendre des risques. Et je pense que ce qui nous tue actuellement, c'est le principe de précaution. On prend plus de risques. Et donc on se dit, tant que je ne suis pas à risque zéro, je n'avance pas. À la guerre, si vous faites ça, vous êtes sûr de perdre. En tout cas, vous ne gagnerez pas.
Le prix du sang, 20 ans de guerre française, c'est ce soir à 21h sur France 5.
Il est 8h10, c'est l'heure des sports.
Juste avant, qu'on
on
parte.
On dit quoi avant?
Juste avant, j'aimerais qu'on parte à la cueillette des champignons, si vous voulez bien.
Allons-y, hein,
puisque c'est un dimanche sec et ensoleillé après quelques jours de pluie. Alors, on rappelle quand même les fondamentaux. On ne ramasse et on ne mange que les champignons que l'on connaît. Si vous êtes profane, rejoignez de fins connaisseurs les mycologues. C'est ce que vous avez fait, Delphine Marion-Boule, à Villiers-Saint-Benoît en Puisaye, dans l'Yonne.
Ils sont une petite douzaine armés de couteaux et de paniers en osier. Moi, je fais équipe avec Jean-Claude Dumas. Son premier conseil, c'est de regarder mes pieds, voire de me mettre à hauteur de champignon.
Pas aller trop vite, hein, parce que oui, si on veut chercher des choses un peu petites...
Deuxième conseil, faire marcher ses sens. Regarder, sentir, goûter.
Alors là, on est dans les mycènes. Alors celui-là, c'est un champignon qui sent justement la rave, le radis.
Ah oui, effectivement.
Alors, il y en a différentes espèces. Il y en a d'autres qui sont vraiment roses bonbons. Il y en a qui ont la particularité d'avoir le bord des lames noir. Il faut prendre les bouquins pour pouvoir déterminer si on ne les connaît pas.
Pour les déterminer, justement, on ramène notre panier au président, Gilles Bourotte, armé d'un livre et d'un petit kit de chimie.
Alors, je viens de passer un cristal de fer. Ça donne une réaction verdâtre ou une réaction rose, selon l'espèce de champignon. Vous voyez ? Elle rosit très légèrement. Donc on a trouvé, puis vert, ouais, c'est Dentifolia.
Sur la table, il y a plus d'une cinquantaine d'espèces, mais on en dénombre plus de 30 000 rien qu'en France.
Alors vous voyez qu'il y a de la marge, on peut en découvrir tout le temps, on peut y passer sa vie et sans jamais tout connaître. Hein.
C'est sans fin pour le mycologue, sans fin aussi, car en les connaissant mieux, forcément, on peut en manger beaucoup plus.
Non mais oui, c'est clair. Et on ne confond pas les amanites phalloïdes avec les rosées. C'est la base.
8h12, les sports donc.
Bonjour Maxime Fayol.
Bonjour.
C'est jour de finale pour l'équipe de France de football aujourd'hui.
Et oui, Espagne-France affiche de la Ligue des Nations la finale, compétition créée récemment, il y a 3 ans, mais que les Bleus n'ont pas encore remportée. Pour y parvenir, il faudra battre les Espagnols, demi-finalistes du dernier Euro, qui ont renouvelé leur génération de joueurs après leurs succès internationaux entre 2008 et 2012. 2 euros et une Coupe du Monde quand même. Mmh. À cette époque, il y a un petit gamin en Andalousie qui n'a pas encore 10 ans. Il s'appelle Pablo Martín Gabira, on l'appelle Gabi aujourd'hui. Et à l'image de Mbappé en France, il est considéré comme la pépite de cette Espagne. Lui qui n'a pas encore 18 ans, Cédric Guillou.
Appelé pour la première fois de sa carrière en équipe d'Espagne pour cette Ligue des Nations, Gabi est entré dans l'histoire de sa sélection mercredi contre l'Italie. À 17 ans et 62 jours, il est devenu le plus jeune joueur à porter le maillot de la Roja, battant un record vieux de 85 ans, Luis Enrique, le sélectionneur espagnol.
C'est anormal pour lui de jouer comme ça, qu'un tel joueur puisse voir le football comme ça.
Né dans la province de Séville en 2004, Gabi, milieu de terrain droitier d'1m73, est un relayeur pur, technique, teigneux, bon dribbleur, couvé jusqu'à ses 11 ans par le Betis Séville et qui a rejoint un an plus tard à 12 ans le centre de formation du FC Barcelone. Et le plus surprenant, c'est qu'il n'était apparu qu'à 6 reprises avec l'équipe première du Barça avant de débuter avec la sélection espagnole, Luis Enrique.
Je savais ce qu'il allait nous apporter, de la personnalité, une volonté de jouer au ballon. C'est un prodige physique, c'est un joueur qui court beaucoup. L'important, c'est qu'il peut être le futur de la sélection et encore une fois, je pense qu'il peut être le présent, car il a la personnalité et la qualité pour jouer à ce niveau.
Et le présent pour Gabi, c'est cette finale ce soir de la Ligue des Nations contre l'équipe de France.
20h45 de ce Espagne-France. La boxe et ce combat à sens unique cette nuit entre Tyson Fury et Deontay Wilder pour le titre de champion du monde poids lourd WBC. C'est Fury qui l'emporte, toujours invaincu chez les professionnels. Il a mis son adversaire KO à la 11e reprise.
En rugby à 13, on en parlait hier matin, pas de trophée finalement pour les Dragons catalans.
Ils disputaient la finale de la Super Ligue unique, championnat professionnel de la discipline. Perpignan, seule équipe française entourée d'adversaires anglais. Ils n'ont pas démérité les Perpignanais, mais ils ont perdu contre Saint-Hélens. Défaite 12 à 10, match serré qui laisse les Perpignanais amers, mais fiers à l'image de leur président Bernard Gouache.
Je pense qu'on a été à la hauteur. À part sur 2-3 actions où on se loupe, c'est malheureux. Enfin, c'est ça, c'est 80 minutes de match exceptionnel, de match haut de gamme. Voilà, de match comme il y en a très peu, il y en a eu un dans la saison. Voilà, c'est comme ça, c'est la loi du sport. Voilà. Aujourd'hui, ça ne nous a pas souri, j'espère que la prochaine fois, ça va nous sourire.
Bernard, ouais. L'ambiance derrière.
Ça sentait la troisième mi.
Exactement, chez nos confrères de France Bleu Roussillon. Perpignan qui s'est aussi incliné en rugby à 15 sur la pelouse du Racing, 92 hier, 6e journée de top 14. Victoire en revanche de La Rochelle, de Toulouse et de Toulon. Ce soir, le Stade français accueille Clermont à 21h.
Merci Maxime.
Maxime Fayol dans le journal de Christelle Rebière. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Euromaster.
toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Parce que votre activité n'attend pas, les services en ligne Euromaster sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Avec des températures en baisse ce matin, Jean-Michel Golinski.
Coup de frais au réveil sur le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté avec 1 degré à Épinal, 2 à Charleville, 3 à Luxeuil, contre généralement 5 à 8 sur les autres régions de l'intérieur, jusqu'à 13 près de la Manche, 15 de Brest à Biarritz et 18 près de la Méditerranée. Comme hier, brouillard et grisaille se sont formés un peu partout. Si le soleil revient rapidement de la Nouvelle-Aquitaine au centre, en remontant vers le Grand Est et en descendant vers la Méditerranée, au nord de la Loire et de la Seine, également le long des Pyrénées, là les trouées seront beaucoup plus tardives et souvent très aléatoires. Avec cet après-midi, les températures à peu près stationnaires, elles vont évoluer entre 16 et 19 degrés dans la moitié nord, 17 à 21 dans la partie sud, jusqu'à 23 sur la Corse.
Jean-Michel Golinski, Météo France.